Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue donc sur l'antenne de Radio Grand Ciel pour la fameuse émission.
Bonjour Jérusalem.
Bonjour Jérusalem. Alors avant tout Elisabeth qui m'accompagne comme d'habitude et Simon aux manettes à la régie comme d'habitude aussi se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020. Prenons ensemble le même chemin qui mène au petit bonheur, au sourire confiant et à l'amour. Alors bonjour Elisabeth. Et Simon, mes meilleurs voeux aussi pour vous, donc elle est votre.
Eh bien, bonjour à tous les deux. Et j'en souhaite autant, effectivement.
J'avais oublié.
Alors, quel va être le programme de la première émission de Bonjour Jérusalem de cette année ?
Voilà, Elisabeth, nous allons en Égypte, où un rare buste de Ramsès II a été découvert.
Pourquoi rare, Christine, alors que je suppose qu'il y en a eu beaucoup d'autres, n'est-ce pas ?
Bien sûr. Pourquoi rare ? Eh bien parce que Ramsès II a été le pharaon de l'Exode, hein, tout le monde le sait, plus ou moins, et que ce buste a été découvert au sud du Caire.
C'est tout ?
Non, bien entendu. Mais aussi, il faut préciser qu'il est sculpté en granit rose et arbore sur sa tête, couverte d'une perruque, le Ka, le fameux Ka, l'un des nombreux symboles de la mythologie égyptienne.
Alors, ça, c'est déjà plus rare, effectivement. Alors, en fait, c'est là un type de statue égyptienne, comme nous voyons, et ancienne, très ancienne, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, ce type de statue est destiné à fournir un lieu de repos pour le Ka, qui est la force vitale ou le double spirituel de la personne, humaine ou divine, après sa mort.
Comment se présente alors ce fameux Ka ?
Eh bien, il a les bras levés, pliés à angle droit sur la tête. C'est le signe donc symbolique du Ka et le côté immortel qui continue à vivre dans la tombe grâce au culte funéraire et aux offrandes alimentaires.
Alors, je crois savoir qu'une seule statue qui est en bois, avec le même symbolique du Ka, avait été déjà découverte.
Oui, vous avez raison, Elisabeth. Et cette statue représentait Hor, premier roi de la troisième dynastie de l'Égypte antique. D'ailleurs, cet artefact retrouvé à Dachour en Égypte se trouve actuellement au musée du Caire, alors que le fameux buste de Ramsès II, lui, a été placé au musée en plein air de Mitraïna, tout près de l'ancienne capitale de l'Égypte, Memphis, à 30 km au sud du Caire.
Oui, en Égypte et pas aux États-Unis, c'est là.
Non, c'est en Égypte. Oui, c'est l'ancienne capitale, je viens de le préciser.
Non, c'est pas
c'est l'ancienne capitale de l'Égypte qui était Memphis.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est peut-être les Américains qui ont repris le nom, Memphis.
Oui, certainement, oui, bien sûr. Il y a quelques avantages voilà, pour les Égyptiens. Alors, pouvez-vous nous dire quel état se trouve ce buste, Christine ?
Eh bien, tel qu'il a été trouvé, donc il est préservé, bien sûr, mais il présente quand même des petits dommages visibles près de la bouche et du nez.
Alors, est-on certain de son identité ?
A priori, elle est certaine, hein, car le dos du buste en granit est recouvert d'anciens hiéroglyphes et le nom de Ramsès II y est gravé sous la titulature qui lui est accordée, c'est-à-dire Kanak Mari Maat.
Alors, c'est joli tout ça. Hein. Oui, c'est bien, bravo, félicitations. Alors, que signifie donc cette titulaire exactement ?
Alors, pour simplifier, elle signifie taureau victorieux aimé de Maat. Il faut noter que le Ka est bien cité et que le mot Maat est la personnification de la vérité, de la justice et de l'ordre cosmique.
Alors, rappelons pour l'histoire que Ramsès II, 1304-1213 avant Jésus-Christ, est le troisième et l'un des plus célèbres pharaons de la 9e dynastie qui régna de 1279 avant Jésus-Christ jusqu'à sa mort.
Et en raison de son règne de 66 ans, long et fort de plusieurs victoires, enfin des grandes victoires, il a souvent été appelé Ramsès le Grand. En fait, il serait mort à l'âge de 90 ans et il a été enterré dans la nécropole thébaine sur la rive ouest du Nil face à Louxor.
Christine, sait-on aussi, n'est-ce pas, qu'il fut vainqueur des guerres menées contre les Hittites et les Libyens, et il était un grand bâtisseur de monuments imposants,
comme
le fameux temple d'Abou Simbel, par exemple.
Oui. Rappelons aussi qu'il a été considéré comme le pharaon de la sortie d'Égypte des Hébreux, même si aucune preuve archéologique ni aucun document ne l'atteste vraiment.
Tout ça, oui, d'accord. Alors, je suppose, Christine, que nous reviendrons sur ce sujet passionnant, puisque ce n'est que le début, on vient de trouver cette statue.
Oui, bien sûr, mais je voudrais également
en parler.
Je voudrais bien sûr préciser aussi que cette mission archéologique du ministère égyptien des Antiquités a mis au jour une collection d'énormes blocs de granit rouge et de calcaire gravés de scènes représentant Ramsès II lors du fameux rituel religieux Hebsed.
Hebsed, ah oui. Alors, ça correspond à quoi ce rituel ?
Alors, c'est une fête de jubilé célébrée traditionnellement à partir de la 30e année de règne d'un pharaon, qui est destiné à renouveler, enfin, qui permet au pharaon de renouveler sa force physique et son énergie surnaturelle. Pour en terminer sur cette découverte, là, précisons que Ptah est le démiurge de Memphis, dieu des artisans et des architectes, mm-hmm. qui lui est également le maître des jubilés, et que ces blocs de granit, selon les chercheurs, peuvent être considérés comme faisant partie du temple dédié au dieu Ptah sur le site de Mitraïna, là où on a découvert, si on remonte un petit peu.
Ah voilà, oui, j'allais demander, voilà. C'est bien là qu'on a trouvé cette statue. Bon, ben, je pense qu'on a commencé l'année avec une découverte magistrale, hein, parce que ce n'est pas rien, et qui mérite qu'on réfléchisse un petit peu là-dessus, qu'on médite cela. En attendant, nous allons faire une courte pause musicale et nous reprendrons la suite de ce programme d'ici à quelques minutes.
Weep nicht keinem Munder in Gott verruhu, wasche teig mir alles, was ich tu. Weep nicht kein Betrachen in sein Gehülle, weint mir zu leben, arrege.
Christine, nous revoici sur les ondes et dans le studio de Radio Grand Ciel, dans notre émission Bonjour Jérusalem. Il y a donc Simon et notre Christine qui nous racontera certainement quelque chose de très intéressant, comme en général. Alors, quel est ce sujet alors ?
Alors, nous allons parler
d'une exposition.
Une exposition, hein, voilà, en ligne sur la vie juive avant 39-45, c'est-à-dire avant 1939, la première guerre. Ah. Voilà. En effet, il y a ce mémorial de Yad Vashem qui a monté une exposition en ligne pour marquer les 80 ans du début de la Seconde Guerre mondiale en présentant les récits d'une douzaine de familles juives en 1939 pendant la Shoah. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le site des archives photographiques de Yad Vashem où vous trouverez cette exposition en ligne.
Alors on va peut-être épeler son nom, donc Yad YAD et ensuite VASHEM Vashem.
Oui.
Voilà.
Mais, ceux qui sont passés, ceux qui ont été en Israël.
Alors on sait bien que cette période, on sait bien que cette période rappelle de bien tristes souvenirs. Bien sûr, je veux parler de la Shoah, mais il est intéressant de retracer le parcours de nombreuses familles européennes et donc juives au seuil de cette guerre. Sans en imaginer l'ampleur, forcément.
Oui,
ils ne s'attendaient pas à ce qu'il
ait
gâté les pauvres.
Oui, je suis d'accord avec vous, Elisabeth. En effet, le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahissait la Pologne, provoquant l'entrée en guerre le 3 septembre du Royaume-Uni, puis dans la foulée la France, entraînant derrière eux leurs empires coloniaux.
Alors, que dit cette exposition alors ?
Eh bien, tout simplement, elle retrace le sentiment dominant de la population juive au bord d'un avenir inconnu qui aboutit à l'extermination de 6 millions de juifs et des siècles de vie juive en Europe, alors qu'en 1939, les juifs menaient une vie dynamique, diverse, riche et active dans toute l'Europe. Ils ont élevé des familles, dirigé des entreprises, rêvé et fait des projets, aimé, pleuré, etc.
Oui, ils étaient comme les autres, ils vivaient normalement. C'était pas très religieux à ce moment-là. C'était pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Non, absolument pas.
Ils étaient des citoyens comme tout le monde. Ouais. Hein. Voilà. Alors donc, ils ne pouvaient pas savoir que le déroulement normal de leur vie quotidienne serait bientôt brutalement anéanti. Il ne restera qu'un souvenir. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'en souvenir.
Sans remuer les mauvais souvenirs. Hein. 80 ans plus tard, bien sûr, il est toujours difficile de comprendre l'énorme décalage entre la vie juive d'avant-guerre et son destin tragique pendant la Shoah. On voit dans cette exposition des familles de Yougoslavie, d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, de Roumanie, de Grèce et de Tchécoslovaquie, au plus beau moment de leur vie, c'est-à-dire les mariages, les naissances et autres événements joyeux, mais également en train de chercher des voies de sortie, luttant pour faire face à la détérioration de leur vie quotidienne, pour aboutir malheureusement au massacre de masse des Juifs sans distinction entre hommes, femmes et enfants.
Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les problèmes auxquels ils devaient faire face, les malheureux, n'ont pas commencé le 1er septembre 1939.
Non,
parce que dès le début des années 30, on ne va pas revenir là-dessus, c'est un vaste sujet et dont on parle assez souvent, donc je pense qu'on ne peut pas l'oublier ça.
Non.
Alors, quels sont les autres supports de cette exposition en dehors des photographies ?
Alors, il y a particulièrement des photos de Félix Nussbaum qui datent de 1904 à 1941, dont 6 de ses œuvres sont accueillies finalement, heureusement, dans cette exposition. Il a été inscrit à la prestigieuse Académie des Arts de Berlin. Il prendra bien vite conscience qu'il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en Allemagne. D'ailleurs, ces tableaux de 39 à 41, ce sont des portraits, autoportraits, des paysages, des scènes de vie, des natures mortes, illustrent bien ces sentiments de peur et de désolation. Sa situation d'homme caché ou l'impuissance de la culture à le sauver. Il sera malheureusement emmené le 31 juillet 1944 dans le tout dernier convoi pour Auschwitz.
Et oui, et donc d'où viennent toutes ces photographies, tous ces textes, ces dessins et autres choses qu'on peut voir alors ? Ce sont les gens appuyés certainement. Ils avaient s'amener des gens des survivants.
Oui, ils se sont ils ont débuté par la recherche de survivants, leurs mémoires, leurs textes, Et cette exposition s'appuie en outre, bien sûr, sur des lettres et des cartes postales, des extraits de journaux intimes, des poèmes, des invitations à un mariage, des textes où se mêlent de l'allemand, du polonais, de l'hébreu, du yiddish ou du latino.
Ladino. Oui, c'est ça.
C'est une langue que je ne connais pas.
Oui, c'est une langue qui est... En fait, ça vient de l'espagnol et ce sont les juifs espagnols qui parlent une langue un peu mélangée avec le grec. Et donc, tous ceux... Parce qu'au moment où ils ont fui l'Espagne, au moment d'Isabelle la catholique, en fait, ils ont traversé toute l'Europe. Et en fait, il y a une grande partie se sont installés en Grèce parce que une fois dans le Hollande est devenu aussi autrichien, donc ils ont été chassés et ils sont passés par Venise, donc d'où vient le fameux mot le ghetto, mot italien qui n'avait rien à voir avec les juifs au début. Ouais. Et donc en fait à ce moment-là, ils sont installés en Grèce et donc ce sont ces juifs qui sont finalement installés en Grèce, ils ont vécu là, qui parlent cette langue, le
ladino. D'accord. Eh bien, merci Elisabeth pour ces précisions. Je ne connaissais pas ce mot-là, mais enfin, merci. Voilà, c'est bien. On a bien sûr des photos de fêtes, de bar mitzvah, des dessins, objets personnels qui complètent cette fameuse collection. En fait, toutes ces pièces témoignent de la période Shoah ont été données à perpétuité à Yad Vashem par des survivants, et sont conservées dans les archives du mémorial.
Ah d'accord. Alors c'est donc on peut considérer ça comme un véritable trésor que cette exposition nous livre.
Ah oui, tout à fait, Elisabeth, car en naviguant dans les rubriques de ce site en ligne de Yad Vashem, on découvre ainsi le quotidien au début de la guerre chez une famille juive à Varsovie, en Pologne, les Zabludowski, dont voici quelques extraits. Le problème auquel nous sommes confrontés en septembre 1939, c'est comment trouver du pain. Après avoir fait la queue en vain pendant 5 heures dans les boulangeries et les magasins de confiserie, nous sommes rentrés chez nous avec 2 têtes de choux, chacune coûtant 1 zloty. Alors, je n'ai pas recherché.
C'est la monnaie polonaise.
C'est la monnaie.
Qui est toujours utilisée. Oui. Ça fait partie d'une des monnaies européennes, oui, en dehors de l'euro.
Nous faisons la queue malgré les bombardements, car une place dans la file est aussi précieuse que la vie elle-même. Ah oui. A écrit Mira Zabludowski le 18 septembre, comme je le disais tout à l'heure, 1939, dans un journal qu'elle a tenu pendant les premiers mois de l'occupation, en rendant visite à ses parents. Elle réussira à quitter la Pologne à la fin du mois de novembre de la même année, sans jamais imaginer un seul moment qu'elle ne reverrait plus ses parents.
Avez-vous d'autres récits à nous raconter?
Oui, j'ai peut-être vous citer quelque chose, mais on va s'arrêter là parce que la liste est longue.
Hein. Oui, effectivement.
Ça peut être intéressant et ça peut faire un sujet.
Exactement. Alors, l'exposition révèle également un deuxième titre intitulé « Soudain, le ciel s'assombrit », qui revient sur le temps d'insouciance de la famille Maier de Belgrade en ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est la Serbie. Refaire une nouvelle pause musicale, parce qu'après ce sujet grave, je crois qu'on a besoin de respirer un peu. C'est un peu difficile. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Revenons sur Radio Grand Ciel après cette petite pause musicale pour évoquer de nouveaux sujets dans l'émission. Bonjour Jérusalem, j'espère un peu moins triste que ce que nous venions d'évoquer.
Alors,
de quoi allons-nous parler?
Dans l'archéologie ancienne. Voilà, je voudrais vous parler de Mirabel. Pas le fruit, hein.
Oui, c'est
le nom d'une forteresse. C'est le nom d'une forteresse croisée, riche d'une histoire de plus de 2000 ans. Restaurée et désormais ouverte au public, tout ça après 30 années de travaux.
Alors, où se trouve cette forteresse?
Alors, elle est noble, massive. Alors, tel un vaisseau de pierre blanche posté à près de 140 mètres d'altitude, posé, on va dire plutôt pas posté, mais posé à près de 140 mètres d'altitude sur une colline au centre d'Israël, la fameuse forteresse de Migdal, Zedek, du XIIe siècle, jouit encore d'un panorama exceptionnel sur la plaine côtière du pays et sur les petites montagnes de la Samarie biblique, aujourd'hui à cheval, sur les territoires de Cisjordanie et d'Israël.
Qu'a-t-elle d'exceptionnel, cette forteresse ?
Eh bien, Migdal Zedek, connu aussi sous le nom de Migdal Afek, tour d'Afek, tire son nom de l'ancienne ville biblique d'Afek, située à 3,5 km au nord-ouest, et surplombe l'ancienne route commerciale connue sous le nom de Via Maris,
la voie de, Marie.
Voie de la mer, la mer MER,
ah oui,
hein,
pas
la mer,
ah oui, d'accord, c'est
voilà,
pas...
hein, qui reliait d'accord. autrefois l'Égypte à la Syrie.
Alors, ce fut sans doute un passage stratégique important.
Ça a été un passage stratégique important, ce qui permettait aux voyageurs, en effet, de contourner la fameuse rivière Yarkon et les marais de la plaine de Charonne.
Ah oui, c'est là une bonne nouvelle, car la restauration de cette forteresse a dû demander beaucoup de temps. Et on l'a dit précédemment, on en a parlé déjà, et aussi beaucoup d'argent.
Oui, on revient effectivement un peu en arrière, car ce sont d'importants vestiges croisés qui font la réputation de Migdal. Migdal Zedek, on va l'appeler maintenant Mirabel,
ce sera plus
simple à présenter. Un castrum à arcades typique du XIIe siècle, avec son donjon, ses tours d'angle et son église. On compte aussi de nombreux ajouts ottomans au XVIIIe siècle qui ont fait de la forteresse une garnison militaire.
Alors donc, utilisée par les Ottomans jusqu'à notre époque moderne.
Oui, après bien des siècles, effectivement, cette citadelle de croisée est aujourd'hui aux confins de la ville de Rosh Ha'an, au cœur du parc naturel de Migdal Zedek, à une trentaine de kilomètres à l'est de Tel Aviv, et était entourée jusqu'en 1948 par le village arabe de Majdal Yaba, oui, tour de Jaffa, que les Palestiniens ont été amenés à déserter après la guerre israélo-arabe.
Ah d'accord. Et qui a ordonné cette restauration ?
Alors, la forteresse qui
a duré longtemps,
de 30 années de travaux de restauration et de conservation à la demande de l'autorité de la nature et des parcs en Israël, a annoncé il y a quelques semaines sa réouverture prochaine.
Alors, si je comprends bien, Christine, l'histoire de ces lieux remonte à plus loin que l'époque croisée.
Ah oui, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même une forteresse du XIIe siècle qui date de la période de moins de 1000 ans. Il faut savoir aussi que des archéologues ont dans le passé identifié des restes de céramique des périodes de l'âge de fer 2. L'âge de fer 2.
Ah, l'âge de fer, ah oui, deuxième, oui, ouais, d'accord.
Deuxième, oui.
Bon, qui fait donc du 10e, 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est ça.
Du 10e au 8e siècle avant Jésus-Christ et de la période perse de la fin du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, sous Alexandre le Grand, ce site a été un champ de bataille stratégique, tant pour son point de vue que pour sa situation géographique.
Alors, c'est bien l'histoire judéo-romain Flavius Joseph qui en parle dans ses écrits au 1er siècle, n'est-ce pas?
Oui, puisqu'il décrit cette forteresse de Mirabel comme une place forte. Les archéologues ont d'ailleurs découvert des vestiges de remparts qui datent de plus de 2000 ans. Il faudra cependant attendre les écrits de l'historien judéo-romain Flavius Joseph au 1er siècle pour désigner la cité Migdal Afek comme place forte lors de l'épisode de la grande révolte juive contre les Romains, c'est-à-dire entre 66 après Jésus-Christ et 73 après Jésus-Christ, et au cours des premiers mois de cette guerre, Sestius Gallus, gouverneur de la province romaine de Syrie, vient étouffer la rébellion dans les villes de Jaffa, de Lod et de Mirabel. À la période byzantine, un monastère fut dédié à Saint Kyrikos, un jeune martyr mis à mort par les Romains à l'époque de l'empereur Dioclétien, 243-316, attesté par un linteau de l'époque qui portait une inscription grecque.
Et voilà, qui atteste donc cette période.
Et qui l'atteste, bien sûr. Et bien sûr, ce monument a été réemployé par les croisés.
Alors, quels ont été ensuite les événements marquants de ce site ?
Alors, en poursuivant la chronologie, à l'arrivée des croisés et à l'établissement en 1099 du royaume latin de Jérusalem, le tertre est alors la seigneurie la plus au nord du comté latin de Jaffa. Mais en 134, Hugues II du Puisay, comte de Jaffa, se ligua contre Foulque V d'Anjou, que tout le monde connaît.
Foulque devenu noir. Le fameux Foulque noir.
Oui, devenu roi de Jérusalem au XIIe siècle. Un certain Balian, connétable du comté de Jaffa depuis 1120, prit ensuite le parti du roi et en 1141, Foulque d'Anjou construisit un château au sommet de Yebna, actuel Yavne, et en le francisant, le nomma Ibelin. En guise de récompense, il le donna avec d'autres terres au connétable Balian, qui prit alors comme nom de famille Ibelin.
Ce seraient les Ibelins qui auraient reconstruit de la place forte de Migdal à Fek, en latin Mirabel, signifiant merveilleux de Jérusalem, n'est-ce pas?
Oui. Oui, car en 143, le roi Foulque meurt, laissant à sa veuve Mélisande la régence du royaume jusqu'à la majorité du futur Baudouin III en 1152. Mais au fil des années, la reine prend un goût au pouvoir et se voit mal le céder à son fils. Finalement couronné roi, Baudouin III réclame à sa mère les villes de Jérusalem et de Samarie comme indispensables à la défense du royaume.
Et là, que fait la reine?
Bien sûr, elle refuse. Hein. Soutenue par Fouché d'Angoulême, patriarche de Jérusalem et Manassé de Hierges, connétable du royaume pendant la régence de Mélisande. Marié à la veuve de Balian, premier d'Ibelin, il avait fait de Mirabel sa résidence principale.
Et alors, Baudouin III accepte tout ça ou comment ça se passe?
Non, mais il se rend bien sûr à la capitale, à la forteresse qui capitule, qui cède. Le connétable est expulsé du royaume et la citadelle de Mirabel revient alors entre les mains d'un véritable descendant de Balian d'Ibelin. Puis, entre 1162 et 1171, Mirabel devint une seigneurie indépendante et en 1166, certaines des terres dépendant du fief de Mirabel sont cédées à l'église de Saint-Jean-Baptiste de Naplouse.
Et après ?
On a toujours la suite. Et après une première tentative en novembre 1177, les armées des Ayoubides, dynastie fondée par Saladin, remportèrent le 4 juillet 1187 la bataille de Hattin. Et Saladin envoya ses lieutenants s'emparer de toutes les places fortes franques, dépourvues de défenseurs. Ce fut Malik al-Adil, le jeune frère de Saladin, qui s'empara de Mirabel, encore propriété de la famille Ibelin. Cette forteresse fut détruite en 1191 pour empêcher les croisés de la troisième croisade, 1189-1192, d'occuper cette place stratégique.
Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on parle beaucoup du krach des chevaliers et d'autres forteresses sur les routes, mais pas de celui-là, effectivement.
Non, mais c'est pas de
Mirabel.
Alors, ouais, on connaît
après,
bien
donc, la... on sait que après viendront les Mamelouks.
Les Mamelouks, puisque en 1226, sous le règne des Mamelouks, le géographe arabe Yakut al-Rumi mentionne la forteresse sous le nom de Majdal Yaffa, tour de Jaffa, sans doute à cause de sa proximité avec la ville de Jaffa, et indique que c'est un village avec une formidable forteresse. La forteresse sera cependant abandonnée à la fin du XIIIe siècle.
Alors, de quand date la reconstruction de cette place, finalement?
Eh bien, elle a commencé au XVIe siècle et a permis de protéger la route qui menait à Jaffa par les Ottomans. Le village arabe de Majdal Yaffa se développe sur la colline. Au XIXe siècle, toujours sous la période ottomane, le site porte le nom de Majdal al-Sadiq, Migdal Zedek en hébreu, du nom du tchèque Muhammad al-Sadiq, membre important d'un clan bédouin.
Et ainsi se termine la chronologie assez compliquée, puisqu'il y a les noms qui sont imprononçables pour la majorité d'entre eux. Se termine donc la chronologie de cette forteresse qui est extrêmement intéressante, puisqu'on ne le connaissait pas du tout, et voilà, qui maintenant, on peut le visiter. Donc tous ceux qui partent en Israël, je pense qu'ils peuvent envisager comme but de promenade. Voilà, je crois que notre émission va se terminer, Christine. Merci d'avoir commencé cette année avec tant de sujets si intéressants. Et merci de nous avoir écoutés sur Radio Grand Ciel. Et à bientôt, où on évoquera encore d'autres sujets certainement si intéressants.
Très intéressant. Je vous remercie, Elisabeth. Merci, Simon. Au revoir.